Terre.
Et des débats avec nos invités. Joie et déception du soir. Quelle consigne de vote? Quelle dynamique pour le second tour?
Élection présidentielle, premier tour.
Une soirée spéciale en partenariat avec France 2, Le Monde et Ipsos Logica Business Consulting.
À suivre sur France Inter, dimanche, à partir de 18h30.
Et suivez-nous aussi toute la journée sur franceinter.fr.
À dimanche.
France Inter.
La différence.
Et vous avez rendez-vous dès à présent avec Daniel Mermet pour la basse, si j'y suis, et bien sûr son répondeur.
Bonjour. Alors, le dimanche, traditionnellement en France, c'est le jour des rencontres sportives. Alors, ce dimanche-ci, j'ai envie de dire, allez les rouges, allez les rouges, allez les rouges, allez les rouges.
Ah, hier, quelle belle émission. Ah, que vous avez raison. La Suisse, c'est vraiment un beau pays, pour le sport aussi. Regardez Joe Wilfried Tsonga, magnifique joueur suisse. Ben, grâce au Grand Air des Montagnes, il est en quart de finale. Que c'est pratique, Genève. Avec le TGV, en moins de 3 heures, t'es à Paris. Tu peux gueuler vive la France en te foutant de la peinture bleu-blanc-rouge sur la gueule. Et le soir, hop, tu comptes tes sous au bord du lac. Et vers 9h, Joe, Amélie, Henri, Richard, enfin tous ces grands joueurs suisses, se retrouvent dans le chalet de l'entraîneur suisse Guy Forget et partagent une fondue au chocolat. Et chaque soir, Joe y trempe son Kinder Bueno et retrouve la forme. C'est ça l'avantage quand on habite en Suisse. On ne gagne pas la Coupe Davis, mais on se console vite. Vive la Suisse, vive la France. C'était Pascal de la banlieue de Genève, c'est-à-dire Lyon.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG, c'est Samuel à Pareil. Je voulais revenir sur l'émission d'hier et sur l'intervention de Jean Ziegler. Il a fait une petite erreur lorsqu'il a cité la fameuse phrase « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime, la loi qui affranchit ». Ce n'est pas une citation de Rousseau, mais une citation assez célèbre de Lacordaire, que par ailleurs, jamais Rousseau n'aurait pu la prononcer, puisque pour Rousseau, c'est l'indépendance qui opprime et non pas la liberté. Donc voilà, je voulais faire ce petit correctif, tout en précisant que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Jean Ziegler et ses combats. L'émission d'hier était, comme d'habitude, tout à fait excellente, un peu déprimante, voire désespérante, mais paraît-il, un autre monde est possible. Voilà, à bientôt, vous l'aurez compris, je suis prof de philo. Bonne journée.
Il est quand même bon, Jean Ziegler, quand il nous dit que voler le fisc, c'est voler le peuple. Depuis quand l'argent des impôts, il va au peuple? Pour la bombe atomique? Pour les sous-marins, les avions qui les baladent? Pour faire la guerre en Libye et installer les islamistes? Pour filer des contrats d'armement à M. Dassault? Pour filer des contrats de construction de ministère de la Défense à M. Bouygues? Et j'en passe, c'est des meilleurs. Faire des centrales atomiques? Faire des autoroutes et tous ces trucs-là qui font que polluer et tuer le monde? Non, franchement, Jean Ziegler, sa soupe socialiste qui se la garde, mais elle ne nous intéresse plus.
Contrairement à l'idée générale qu'on veut nous enfoncer dans le crâne, selon laquelle la campagne est complètement nulle, je suis absolument pas d'accord. Moi, je trouve qu'on découvre des personnalités et je voudrais faire un bisou au petit Poutou qui a eu beaucoup d'inventivité, d'imagination dans ses spots, parodier une émission de jeu, se mettre au balcon et discuter avec les gens dans un immeuble. Donc, en plus, un petit polo de rien du tout. Très sympa. Et alors, un type aussi que je trouve assez stupéfiant, c'est Monsieur Cheminade. Jolie voix, belle prestance, séduisant. Puis alors, branché espace, très très fort scientifiquement. Des idées un petit peu iconoclastes et beaucoup d'humour. Je sais pas, ce mec-là, il a sa place dans un gouvernement, quel qu'il soit. Voilà, non. La campagne n'est pas du tout nulle. Par contre, effectivement, certains journalistes, oui, sont nuls.
Merci pour ce message. Cette auditrice va être ravie. Je voudrais revenir sur la fameuse phrase, effectivement, citée par Jean Ziegler et qu'il attribue à Jean-Jacques Rousseau. On a eu des débats dans le bureau du « mais c'est pas Jean-Jacques Rousseau, c'est Lacordaire ». Et puis finalement, on a laissé Jean Ziegler dire que c'était Rousseau. Et il semblerait bien que ce soit Lacordaire. C'est des détail important quand même, hein. Il faut être précis, en tout cas vous loupez rien, quoi. Vous ne laissez rien passer et c'est très bien. Alors notre auditrice va être ravie aujourd'hui parce que ils vont tous parler d'ici à 16h dans la basse où j'y suis. Les 10 candidats à l'élection de dimanche vont parler, pas eux, mais leur porte-parole, les militants, des dix candidats d'ici à 16 heures. Pourquoi est-ce que c'est une prouesse? Parce que c'est très difficile. Vous savez que l'égalité du temps de parole est imposée aux médias, notamment à la radio et à la télévision. Et c'est difficile, évidemment, de faire parler, donner du temps égal de parole à ces 10 candidats. Eh bien, c'est ce qu'on va faire d'ici à 16 heures. Sarah Lefebvre est partie sur les marchés de Paris et alentour, à la rencontre, alors des porte-parole et surtout des militants. On avait envie de parler avec ceux qui, à l'âge du virtuel, des réseaux sociaux, des grands commentaires et des grands discours, pensent que c'est quand même mieux encore d'être dans la rue avec distribuer un tract et puis autour d'une phrase, autour d'un mot, essayer de faire avancer des idées, des convictions, de l'espoir. Il y a quelque chose là de touchant dans cette foi vis-à-vis du politique, quel que soit le parti. Ce militant là du coin de la rue est un personnage qui a raison ou pas, évidemment ça c'est vous qui déciderez, mais qui a une indéniable sincérité, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et effectivement, vous allez voir, bien sûr, vous avez sans doute déjà décidé pour qui vous allez voter. La grande question à se poser, c'est pourquoi nous votons comme nous votons, quel est le poids des médias dans cette décision. Ce poids n'est peut-être pas aussi important que la médiacratie et que les médias et les journalistes le croient eux-mêmes, qui s'attribuent toujours des rôles extraordinairement importants et influents. Quoi qu'il en soit, voilà, Sarah part faire les courses. Elle a fait la liste des courses. Sa liste des courses, c'est les 10 candidats. Et il va falloir que tous parlent et s'expriment d'ici à 16 heures dans la basse IGSPI. Leur temps sera exactement le même pour chacun, 2 minutes 30 exactement. Et voilà, Sarah part faire son marché. Et c'est pas l'économie de marché aujourd'hui, c'est la politique du marché, c'est la politique au marché, pourrait-on dire. Et c'est la liste des courses. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour tout le monde. Alors moi, je ne sais pas vous, mais l'interview de Ruffin avec Boisy, là, du Crédit Agricole, mais ça m'a filé une patate révolutionnaire. C'est la fin, là, surtout, quand François propose la quatrième solution, qui dit « Ouais, mais il se pourrait que le peuple descende », et l'autre en face qui dit « Ouais, mais là, quand on voit que la Grèce a failli mettre l'Europe à genoux, vous imaginez si les mêmes manifestations se passaient en France ?» Puis ils étaient en train de dire que si ça se passait en France, mais ils étaient foutus. Mais putain les gars, mais ça vous file pas la patate, ça? Ah, moi si, hein. Allez, c'était Jérôme de Saint-Lys.
Message au Nantèche. Vendredi, c'est repère. Un repère qu'on aimerait voir fumer des feux des grands préparatifs, qu'on voudrait voir précéder les grands jours. On peut rêver si on est ensemble. Un repère où nous parlerons nécessairement de politique, les oreilles grandes ouvertes et les bouches aussi. Alors on va en faire un repas collectif. On vous convie tous à venir armés d'une fourchette et d'une assiette et de quelques plats si vous en avez le temps. Ou de rien, de vous-même. Ça se passera comme d'habitude au Méliès. On s'y retrouve tous pour manger, boire, parler, manger, boire, parler, manger, boire, parler. Jusqu'au bout. Vendredi 20 avril, 19h19, chez Tard.
Petit texte printanier. Chaque printemps, ce petit pommier du Japon devient une magnifique boule blanche, frémissante d'abeilles bourdonnantes aux pattes gorgées de soleil et de pollen. 28 printemps, 28 concerts de la nature. Le 29e concert n'a pas lieu. L'enivrant tumulte qui allait crescendo au fur et à mesure que je m'approchais de l'arbre musicien, l'enivrant tumulte a fait place à un silence glaçant. La belle floraison séductrice n'a pas trouvé butineuse. 2012, première année sans abeilles dans mon jardin. Je remercie tous les maîtres salopards de l'industrie chimique, sans oublier les petites mains qui répandent le poison et de leur sol en font un cimetière. C'était Jackie Adiolfi. Bonnes élections à tous.
La cosmonaute. Son programme était spatial, le mien du genre spécial. Elle monta dans son engin sans une pensée pour le mien. C'était le poète déçu. Salut.
Allez, sale courroux, les papes, Louis. Robert, viens, viens, viens voir. Allez, sale courant du peuple, oui.
Bonjour.
Bonjour.
Pour Nicolas Sarkozy.
Je suis retraité. Il y a aussi des retraités au NPA.
Avec ça, mon cœur.
Oui, je suis. Bon, mon projet, c'est du lourd, là. Celui de Jacques Cheminade.
C'est ton dernier mot? Tiens, ma belle.
Enfin, moi, je m'en fous, je vote socialiste. Ce n'est pas que ça change.
Allez, la fraise, la fraise, la fraise!
J'ai rejoint François Bayrou pour faire valoir des idées nouvelles.
Allez, la fraise, la fraise, la fraise!
On va voter pour Nicolas Dupont-Aignan, effectivement. On espère qu'il sera président de la République.
Ça va nous faire 12,87. Les gens, même quand ils sont pas Front National, ils la comprennent, vous voyez. C'est la lumière dans l'obscurité.
Les champignons français extra, là, oui.
Bah oui, pour moi, ça y va. Ça fait un petit moment que j'ai choisi, déjà.
Eh ben, les pas chères, au choix, au choix.
Bonjour, monsieur. C'est un tract de Nathalie Arthaud. Qui que soit celui qui sera élu, nous ne ferons pas l'économie de la lutte.
Et que de la mort de...
Avec le Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon. On essaye d'encercler le marché. Avec le Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon.
Allez, 2 kilos, 2 euros dans la clémentine. La fraise, la fraise, la fraise.
Le framboisier, il est pas cher, il fait 3.
La fraise, la fraise, la fraise, en promotion. La clémentine.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis avec Sarah Lefebvre. La liste des courses ou l'égalité du temps de parole.
Flight number 2, arriving from New York.
Bonjour. Vous voulez bien m'aider un peu?
Ah bah ça dépend pourquoi.
C'est pas très compliqué.
Ouais, allez.
En fait, j'ai une liste de courses. Comment vous appelez?
Alain.
Alors Alain, en fait mon idée c'est d'aller faire un marché électoral.
C'est-à-dire?
Aller sur les marchés.
Oui.
Pour parler du vote, des raisons du vote qu'on a. Donc à la base l'idée c'était de recueillir un peu les doléances des Français, en fait ce qu'ils pensent de la politique en France. Et puis, nous est tombée une petite règle du jeu supplémentaire sur le dos. On a reçu des ordres et nous aussi, on doit respecter le temps de parole. Vous en avez entendu
parler ? Ah bah oui, 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 ça je sais, oui.
Et alors, donc du coup, il va falloir que je parle de chacun des 10 candidats.
Oh, bah dis donc, ça fait du monde ça.
De la même façon, bah oui.
Oui, et alors ?
Dans cette liste de courses, va falloir qu'on la fabrique ensemble, cette liste de courses. C'est qui alors ces 10 candidats ?
Bah les 10 candidats, il faut que je vous les donne.
Ouais.
On commence par Nicolas Sarkozy, François Hollande, François Bayrou, Marine Le Pen, Eva Joly. Puis après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Nicolas Dupont-Aignan.
6, on a.
Ah oh là là, attention, je commence à caler là.
Bah, je vais vous aider un peu.
Philippe Poutou. Poutou.
7.
L'extrême gauche, là, c'est Nathalie.
Arthaud.
Arthaud, voilà, oui.
Pour Lutte Ouvrière.
Et puis Cheminade.
Et Jacques Cheminade. Et il en manque juste un.
Ah.
Jean-Luc Mélenchon.
Bah oui, alors celui-là, si je l'oublie.
Donc c'est ma liste de courses, ça.
Ah bon, et alors qu'est-ce que vous faites avec ça?
Eh bien, il va falloir que j'interviewe un électeur de chacun de ces partis, qui soit commerçant sur les marchés, qui soit militant ou bien acheteur, qui fasse ses courses. Voilà.
D'accord.
Et vous, Alain, vous avez votre petite idée?
J'ai pas trop d'idées. Je m'intéresse beaucoup à la politique, mais je suis dans l'incertitude actuellement.
C'est vrai, vous faites partie de ces indécis du coup dont nous parlent tous les sondages.
C'est-à-dire
là
que je vois les avantages et les inconvénients de chaque côté.
C'est dans l'isoloir que ça va se décider?
Avant quand même. Avant.
Bon bah bon courage pour votre choix.
Merci.
Puis bah voilà. Moi je vais aller faire mes courses. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Bonne journée. Il y avait des géraniums, il y avait des géraniums, il y avait des...
C'est du fromage, ça.
Framboisier.
Le framboisier, il est pas cher, il fait quoi?
Vous n'avez pas de sac?
Non, c'est pas une
régalée. Ça fera 4 ans.
On est dans le 16e arrondissement, avenue du président Wilson. Et comme tous les samedis matins et tous les mercredis matins, il y a le marché, avenue du président Wilson. Alors il faut s'imaginer qu'il y a la Seine hein, juste à côté de nous, juste derrière les immeubles qui sont à ma droite. À ma gauche donc cette énorme allée qui fait près d'un kilomètre de marché. Et ici sur le marché, il y a des belles fraises venues d'Espagne, des tomates entre 5 et 12 euros le kilo. J'ai aussi vu le kilo de pommes à 5 euros. Enfin voilà, ça vous donne au moins une idée pour les fruits et légumes. Alors on va aller voir ce que donne le militantisme ici et puis ce que pensent les commerçants, les passants. Bonjour monsieur. Vous êtes artisan fabricant de confitures spécialité d'agrumes.
Voilà, ouh là c'est là ça. Là. Et je suis le père Bonnet, c'est ma marque de confitures. Je fabrique mes confitures dans mon appartement à Paris et je les vends sur ce marché le mercredi et le samedi.
C'est combien l'emplacement ici?
3 mètres linéaires par mois, je suis à peu près 113 euros tous les mois. Donc pour nous, petits alimentaires, c'est la plus grosse décharge.
Le prix du pot de miel de forêt.
Voilà, alors 11 euros le kilo le liquide.
Et le miel de rousse
5 euros.
Je vais prendre. 13
euros. Ouais, voilà.
Merci monsieur.
Merci beaucoup, vous l'avez pris. Hein.
Oui.
Merci bien madame. Merci.
Est-ce que vous avez vu passer des militants ce matin?
Des militants qui tractaient? J'en ai vu un peu samedi. Y compris du PS, ce qui est rare dans le 16e. J'ai vu l'UMP, j'ai vu le PS, j'en ai pas vu d'autres honnêtement.
Les petits partis?
Non, bah, ils ont pas beaucoup de moyens. Hein. Enfin, moi je m'en fous, je veux être socialiste. Donc j'espère que pour l'instant François Hollande est bien placé. Il faut que ça continue comme ça, parce qu'il est temps que ça change. Hein. Mon discours politique, vous ne l'entendrez pas beaucoup ici. Hein. Il faut savoir que les commerçants, patrons je parle hein, bien sûr, comme moi, voilà, ils sont quand même très conservateurs et très à droite. Et c'est pour ça que Sarkozy avait fait des choses un peu pour les commerçants, parce qu'il votait, c'était son électorat. Donc, moi j'ai peur. Hein. Moi je ne vis pas de ma confiture. Hein. Donc j'ai de l'assurance vie à la poste chez Essendo. Je voudrais absolument qu'il diminue la dette. Pour moi c'est le truc le plus important. Diminuer la dette, c'est quand même 1700 milliards d'euros. Elle a doublé depuis que la droite est au pouvoir, 2002. Elle a doublé la dette, hein. Elle était de 800 milliards. Hein. Et Sarkozy, il en a mis 500 milliards sur son compte tout seul pendant 5 ans. Il a financé des exemptions d'impôts, des réductions d'impôts. Il a rétrocédé des impôts aux plus riches. Il l'a financé avec de la dette. 500 milliards de plus depuis 5 ans. Vous vous rendez compte?
Et comment on fait alors pour diminuer la dette?
Il faut faire payer des impôts aux plus riches. Il faut faire payer des impôts, des charges et des taxes aux grandes sociétés, aux grands groupes qui font des bénéfices vraiment énormes. Je parle par exemple de Total. Et puis, il faut que les plus riches acceptent de payer un peu plus d'impôts. Les dernières tranches, elles étaient jusqu'à 65%. Bon, là, Hollande, il va en faire une exceptionnelle à 75, mais au-dessus d'un million d'euros. Il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent plus d'un million d'euros par an. Hein. Bon, mais il faut faire payer un peu plus d'impôts aux gens les plus aisés, les plus riches. Un jour arrivera, et l'assurance-vie, elle est la première nommée, parce que l'assurance-vie, c'est énorme en France qu'on a en assurance-vie. Ils prendront peut-être, dans le bas de laine des Français, ils disent, monsieur, vous avez un compte à Sendo à la Poste, vous avez tant de capital d'assurance-vie. On va être obligé de vous en prendre une partie pour financer le pays. Moi, j'ai peur de ça à terme. Moi, j'ai un peu d'économie. Je vis grâce à ça. Je veux pas qu'il tape dans mon bas de laine.
Ton devoir, c'est d'aller voter. Tu peux pas échapper à ton droit fondamental. C'est pour toi que tu le fais. Ton devoir, c'est d'aller voter. Pour dire qu'on existe, faire pencher la balance sous cette terre, écoute. Ton devoir, c'est d'aller voter. De gauche à droite, extrême gauche, extrême droite, au centre, blanc ou vert. Ton devoir, c'est d'aller voter. Prends parti, prends des positions, à des opinions. Poser les bonnes questions, c'est une solution. Ne sois pas un pion dans ce monde bidon. Traité comme un mouton dans de sales conditions. Reste en position, pas de dissolution. Réclame haut et fort ton droit à l'union. Moyen d'expression universelle où chacun a un droit unique d'opinion. Ton devoir c'est d'aller voter. Tu peux pas échapper à ton droit fondamental. C'est pour toi que tu le fais. Ton devoir c'est d'aller voter. Pour dire qu'on existe, faire pencher la balance sous cette terre, écoute ça. Ton devoir c'est d'aller voter. De gauche à droite, extrême gauche, extrême droite, au centre, blanc ou vert. Ton devoir c'est d'aller voter. Le candidat de ton choix, même s'il n'y a pas trop le choix, pour faire un choix. Ton devoir c'est d'aller voter. Tu vois toujours plus dans une société qui impose ses lois, c'est pas normal. Ton devoir c'est d'aller voter. Avec tout ce qui se passe comme injustice sur notre planète, c'est bien normal. Ton devoir c'est d'aller voter. C'est un droit, c'est un poids, c'est un choix. Écoute, c'est ton devoir c'est d'aller voter.
Bon bah voilà, j'ai le PS et de 1. Il me manque plus que l'UMP pour avoir les deux grands partis, comme on dit dans les médias. Allez, on va aller chercher les militants UMP.
Vous avez entendu parler de cette lettre?
Oui.
D'accord. Bah, vous la prenez et vous la diffusez?
Voilà.
Merci, hein. Bonne journée. T'en as pas, toi, des lettres aux Français?
Non, ouais,
du
je les ai données, les trois, tu vois. J'ai tout distribué.
Ça marche bien, les lettres aux Français.
Comment vous vous appelez?
Jonas.
Jonas comment?
Haddad.
Et donc vous êtes militant UMP alors?
Je suis militant UMP, ouais, effectivement.
Voilà. Depuis combien de temps?
Depuis la dernière campagne présidentielle, en fait, parce que j'étais au meeting des jeunes avec Nicolas Sarkozy en 2007. Et j'ai trouvé qu'il y avait une énergie chez cet homme, une volonté de changer les choses. Donc voilà, je me suis engagé. Et puis après, on continue pendant 5 ans. Voilà. Ça me vieillit un petit peu de dire ça en plus. Moi, je me dis, d'ailleurs, à pas mal de sondages qui le montrent, que la jeunesse va voter plus à droite que d'habitude cette fois-ci. Peut-être parce qu'ils ont pris conscience que les promesses n'engageaient que ceux qui les tenaient, et que François Hollande, qui s'est dit candidat de la jeunesse, ah, derrière, il n'y a rien. Enfin, il y a 150 000 emplois d'avenir, c'est-à-dire des emplois financés par la dette publique. On a eu un beau discours à la jeunesse la dernière fois sur la volonté d'entreprendre, notamment. Moi, je pense que les jeunes qui veulent créer, ils ont besoin d'avoir une aide plutôt que ceux qui veulent simplement profiter d'un certain système. Parce qu'on s'est toujours demandé en France comment les jeunes pouvaient être des employés. Peut-être qu'à un moment, on pourrait se demander, comme dans d'autres pays, comment ils vont être employeurs. Comment ça se fait que Facebook, ça existe qu'aux États-Unis, que le mec, il a 27 ans, et il a déjà créé une société qui est au CAC 40 américain, et que les jeunes, on leur donne comme ambition d'avoir des emplois d'avenir. C'est pas une ambition pour la jeunesse.
Du coup, comment vous vous organisez là, quand vous venez sur le marché du président Wilson ?
Bah, on vient tôt, enfin tôt relativement pour un samedi. On se met au-dessus et en bas, comme ça les gens arrivent en haut et en bas. Et puis après, quand il y a un peu moins de monde, on va discuter avec les commerçants. Ce qui est bien, c'est que les commerçants, en général, quand ils ont vendu leurs produits, ils ont discuté avec les gens et du coup, ils nous disent « Ah, Sarkozy, Sarkozy ». On fait peut-être les commerçants ? Hein ? On y va ?
Allez, vache, 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 trois fois !
Avec ça, mon cœur ! C'est ton dernier mot ? Tiens, ma belle. Ça va nous faire 12,87. Voilà, belle enfant.
Donc là, on est dans l'allée principale du marché. Vous habitez où, Jonas ?
Moi, j'habite dans Paris.
Et vous faites quoi comme études, travail ?
Je suis élève avocat, en fait. Bonjour.
Bonjour.
Pour Nicolas Sarkozy ?
Surtout pas. Surtout pas, merci. Parce que on a vu ce qu'il nous a fait pendant 5 années.
Il nous a sorti la crise.
Ah ouais. Ouais, bah en tout cas, moi, il m'a mis comme il faut dedans.
Il a battu les Américains. Et il a essayé de sauver l'euro, justement.
Bonne journée, en tout cas.
Tu t'appelles ?
Arthur.
T'as quel âge, Arthur ?
22. Et je milite depuis 2007.
Est-ce que on peut vous laisser un papier pour les élections présidentielles ? Voilà, c'est le programme de Nicolas Sarkozy. Vous voulez faire la campagne avec nous ?
Non, pas du tout.
Bon, d'accord.
Vous voudriez voir d'autres militants ?
Non, sûrement pas. Ni l'un ni l'autre. Ça sera les mêmes pareils.
Comment vous appelez, madame ?
Anaïk.
Anaïk. Et vous, monsieur ?
Didier. Ah bah, 15 heures par jour. Alors, c'est bon. Je paye 4000 euros d'allocation familiale. Je paye... alors, si je compte le RDS, le CSG et tout, on n'en parle même pas. Je travaille 2 heures par mois par jour et j'ai 13 heures pour distribuer à tous ceux qui branlent rien.
Alors, personne n'ose le dire.
C'est bon.
Mais tout le monde pense la même chose.
Chez des gens qui disent qu'ils bossent énormément, c'est des gens qui travaillent sur les marchés et ils ont les mêmes soucis que d'autres personnes de l'UMP. Donc, en gros, le programme, c'est à la fois de remettre la valeur travail vraiment au cœur de notre politique.
Elle peut pas avoir sa retraite. C'est ça le problème.
Pourquoi elle ne peut pas avoir sa retraite ?
Parce qu'il faut bosser, parce qu'elle a élevé ses enfants, elle n'avait pas assez de points, et voilà, et les aides à droite et à gauche. Mais la pauvre, elle n'est pas toute jeune. Donc, mais il y a des jeunes qu'on leur donne des aides qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, mais elle, qu'elle a travaillé, qu'elle a élevé ses enfants, tout ça, elle ne peut pas se reposer, elle n'a pas le droit. On est tous abandonnés. Hein.
Allez, la fraise, la fraise, la fraise. Allez, 2 kilos, 2 euros dans la clémentine. La fraise, la fraise, la fraise.
2 euros la caisse, les madame. Il ne manque que 2 euros le plateau. 2 euros le plateau, 2 euros le plateau.
Ah bah voilà, je les ai trouvés, les militants. Fallait juste sortir un petit peu des grandes allées. Bon, il y a des travaux, on les entend. Mais on y va quand même.
Avec le front de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Avec le Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon. Avec le Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Moi, je suis étonné pourquoi vous n'êtes pas sur le marché, là.
Ici, nous sommes très nombreux sur la place de Humet, qui est un lieu de passage de gens qui vont au marché. C'est moins tassé que sur le marché lui-même. On essaye d'encercler le marché.
Je vous ai même pas demandé comment vous appeliez.
Jean-Claude.
Vous êtes militant depuis longtemps pour le Front de Gauche ?
Oui, je suis militant depuis très très longtemps, depuis ma jeunesse.
Jamais vous avez décroché.
Non, mais vous savez, quand on vient d'un milieu ouvrier très pauvre, qui, étant gamin, avait des commerçants qui refusaient de donner le pain ou une bouteille ou un paquet de nouilles parce que mes parents avaient des dettes, ça marque la vie. J'étais enseignant, j'ai eu la chance d'être enseignant. J'ai toujours voulu faire toute ma carrière dans les cités de la Seine-Saint-Denis. Donc c'est un choix.
Vous n'êtes jamais fatigué ?
Non, non. Bah, c'est ça le militant. Hein. Moi, je ne me suis jamais fatigué. À 64 ans, je continue. C'est parce que j'ai tellement été marqué par mon histoire familiale. Parce que mes parents n'étaient pas du tout militants. Hein. Ma mère était mère au foyer et mon père était ouvrier dans le bâtiment. Où il faisait des heures et des heures et des heures et des heures. Parce que avant les événements de 68, il faisait 54 heures par semaine. Et des fois, il travaillait même la nuit. La journée plus la nuit pour tenter de nous en sortir.
Vous étiez combien d'enfants ?
On était 4 enfants et on vivait dans 11 mètres carrés. Notre chambre était 11 mètres carrés. Donc avec des lits pliants, etc. pour qu'on ait un tout petit espace. Donc ça marque. Ça marque. Avec le front de gauche. Là, on est une dizaine. Avec le front de gauche, Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Allez Mélenchon, allez. Il y a trois enjeux à Saint-Denis. Hein. Pour les populations de Saint-Denis, c'est l'emploi, le revenu, le logement. Le logement, c'est surtout une question Île-de-France, mais plus particulièrement dans les villes populaires. Quand on voit le prix maintenant des logements privés à Saint-Denis, la plupart des gens ne peuvent plus se payer un logement privé, si ce n'est en suroccupant les logements pour qu'il y ait plusieurs salaires qui permettent de payer le logement. Jean-Luc Mélenchon avec le front de gauche.
Bien sûr, mais ça ne sera pas le même Pignolo. Hein.
Et c'est vrai que nous, on se bat beaucoup pour que les gens retournent voter, pour redonner de l'espoir. Et c'est vrai que ce sont dans les catégories les plus pauvres qu'on ne vote pas. Et c'est pourtant elles qui auraient besoin le plus d'espoir, de possibilités, de recroire en quelque chose, etc. Je vois aux élections municipales européennes cantonales, à Saint-Denis, on a 25% de votants, 75% d'abstention. C'est terrible, c'est terrible.
Ne vous trompez pas de vote, on est bien à gauche, votez Jean-Luc Mélenchon.
Regardez voter les gens. Je coupe le champ. Et je remets Mélenchon. Je coupe le champ. Je remets Mélenchon. Je coupe le champ.
Je suis toujours à Saint-Denis, là, je me suis un peu écartée du marché. On est dans une des allées extérieures et je viens de voir un fanion où s'est mis Cheminade 2012. Alors on va aller voir ces militants tout de suite là, qui rêvent d'un monde sans Wall Street ni la City. Ces militants qui militent pour le parti Progrès et Solidarité.
Bonjour madame. Alors est-ce que vous avez vu Cheminade se bagarrer dans l'arène là hier?
Oh non.
Oh là là.
On vote pas ici.
Non. Il faut botter les fesses à ceux qui votent pas dans votre entourage là. Je suis sûr qu'il y en a. Vous voulez lire un peu ou?
Non, non, ça va.
Bon. Merci. Moi c'est Fabien Ramel. Je suis militant en fait depuis 2008, l'été 2008. Et donc là actuellement je suis. Ils ont investi dans la campagne présidentielle. Donc moi, j'ai participé à bâtir la piste de décollage avec la collecte des parrainages. J'ai rencontré à peu près 120 maires, donc ça a été une expérience, disons, assez constructive. Et donc là, depuis qu'on a réuni les 500 parrainages, moi, je me suis occupé d'aller, en fait, dans les banlieues.
Et pourquoi alors les banlieues ?
J'y ai vu comment il y a une ghettoïsation et comment, voilà, on a laissé décrépir un pays. Il y a je ne sais plus quel homme qui disait que les moyens qu'on donnait à la santé, c'était le moyen de mesurer le degré de civilisation d'une société. Aujourd'hui, l'état délabré dans lequel on a laissé Sarcelles ou d'autres, je pense que ça montre comment cette civilisation aujourd'hui se dégrade. Monsieur, bon, mon projet c'est du lourd là, celui de Jacques Cheminade.
J'ai pas le droit.
Vous n'avez pas le droit ?
Non. Ah ! Ça fait 52 ans que je suis en France. Et j'ai pas le droit de voter. Parce que je suis toujours algérien.
Vous ne demandez pas la nationalité ?
Non. J'ai hésité quand même. Ouais. Non, non, ça ne change rien à l'histoire. Tabé, je m'appelle. C'est mon nom. J'ai travaillé 43 ans, j'ai ma retraite.
La question, c'est que je ne crois pas qu'il faille attendre et de croire que
moi, dans un. Rien. Je regarde le matin mon portefeuille, si j'ai de quoi manger, je suis content. Mais si j'ai rien, eh ben, je ferai comme tout le monde.
Mais alors, qu'est-ce que je vais devenir, moi, à 24 ans et hein, tous ceux qui ont le même âge ?
Je suis d'accord avec vous.
C'est l'esprit.
Ils sont partis en Algérie à cause de ça. Il n'y a pas de boulot, ils sont partis là-bas. Il y a trop de monde.
Ah, il y a trop de monde. Mais il n'y a pas aussi trop d'entreprises qui ont disparu. Il n'y a pas, en fait, un État aujourd'hui qui ne fait plus de grands projets, qui n'est plus en train d'aménager le territoire, qui délaisse les territoires ruraux. C'est pour ça que Cheminade dit qu'il faut une commission d'enquête. Roosevelt, dans les années 30, Alors au moment où l'économie américaine avait été dévastée, il a fait en sorte que la population américaine puisse voir qu'est-ce qui s'était passé, quelles étaient les grandes têtes de la finance, comment ils avaient opéré, comment ils avaient triché. Ça, en fait, soit aujourd'hui, il y a, disons, une résistance qui se bâtit autour d'un côté le combat du monde financier, et là, il faut donner des armes sur comment on vise son cœur. Nous, c'est ce qu'on dit sur la City et Wall Street. Il faut aller regarder que c'est là que, disons, les principales institutions financières qui mettent la pression sur l'Europe, sur la BCE, qui est le relais. La BCE, aujourd'hui, est en train de totalement faire une politique pour ses établissements financiers.
Mais les gens en France, aujourd'hui, ils ne sont pas combatifs.
Eh oui, quand vous voyez les retraites, j'ai une voisine, elle fait 700 euros par mois. Elle paye son loyer 500 euros. Qu'est-ce qu'il lui reste pour vivre ? Et c'est terrible ce qui nous arrive. C'est terrible.
Bon ben voilà, c'est incroyable, Daniel, je repars du marché de Saint-Denis avec non seulement un militant Front de Gauche, mais en plus un militant du parti Progrès et Solidarité, Jacques Cheminade. Alors ça, c'est bon pour un temps de parole, ça.
Voilà Sarah Lefebvre qui relève un défi, celui de donner le temps de parole égal à chacun des 10 candidats 2 jours avant le grand jour. Non pas, vous avez compris, les candidats eux-mêmes, mais ceux qui les soutiennent et qui interprètent à leur façon les programmes de chacun. Alors on a eu le marchand de confiture socialiste, on a eu l'élève avocat UMP, le jeune militant UMP, on a eu Jean-Claude, 64 ans, à Saint-Denis, au marché de Saint-Denis, d'ailleurs au passage un marché formidable dimanche matin, c'est un très très beau et très très grand marché, marché de Saint-Denis, Front de Gauche, Jean-Claude de 64 ans, qui expliquait pourquoi il votait, lui, d'après sa propre vie, ce militant-là de Jacques Cheminade, avec ce qui évoque Roosevelt et qui évoque la BCE, avec un passant qui, lui, ne se soucie que de l'essentiel, c'est-à-dire de sa survie, c'est quand même des croquis inattendus. On peut mesurer la distance qui peut exister entre voilà, la rue, le marché, et puis les grands discours, les grandes magouilles, les grands tremblements en altitude. Voilà. Alors on continue avec ces petits soldats de la politique que sont ces militants au coin des marchés et qui ont tous les défauts du monde, toutes les naïvetés sans doute, les croyances sans doute, mais une indéniable sincérité.
Place d'Aligre, 1727-1798. Aligre, c'était le premier président du Parlement de Paris. Je suis devant cette petite pancarte-là collée sur les Halles.
Le 12 avril, meeting avec Philippe Poutou.
12e arrondissement, donc entre la place de la Bastille au nord et la gare de Lyon au sud, en plein centre de Paris, hein, un peu vers l'est.
On est là tous les dimanches, hein. Pas uniquement en période électorale. On n'a pas vraiment d'audience ailleurs, hein, dans différents médias. Donc on a les marchés et on est là toute l'année. Je me nomme Yves, YVES. Je suis militant de tout temps, avant de la LCR et maintenant du NPA. Et je suis retraité. Il y a aussi des retraités au NPA. Il n'y a pas que des petits jeunes révolutionnaires qui veulent tout casser. Il y a aussi des vieux qui veulent tout casser.
Et pourquoi vous voulez tout casser ?
Parce que ça marche pas, parce que c'est pas beau. Le système dans lequel on est une honte totale et véritable. Il y a un de mes amis qui disait qu'il y a à peu près 1 milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim et qui vivent dans la pauvreté. Dans le même temps, vous avez des gens qui tous les jours gagnent des centaines de millions, voire de milliards, en spéculant sur les denrées alimentaires. Donc là, on a compris qu'il y avait une erreur de système. C'est clair et net. À partir de là, on réfléchit à un autre système. On n'est pas les plus à plaindre en France, c'est vrai. Mais il y a quand même aussi en France des gens qui souffrent. Voyez les gens qui dorment dans leur voiture, interrogez les gens qui bossent et qui n'ont pas de quoi se payer un appartement. Vous savez qu'il y a une grosse partie et de plus en plus importante du fruit du travail qui passe dans le capital. C'est anormal. Il y a des sommes colossales d'argent que certains possèdent alors que d'autres n'ont rien. Et ce ne sont pas forcément des fainéants comme on les stigmatise habituellement. On ne va pas vous donner des RSA, on va pas vous donner parce que vous êtes des assistés. Non, 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 il y a des gens qui bossent et qui n'ont pas de quoi gagner leur vie en bossant.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça ?
Répartir les richesses parce que l'argent existe. L'argent est là, l'argent existe. On sait qu'il y a de l'argent. Tous les ans, vous avez des journaux comme Forbes aux États-Unis ou Challenge ici en France. On vous donne le montant des plus grandes fortunes, donc on ne vous dit pas qu'il n'y a pas d'argent. Ces gens sont riches à milliards. À milliards. Ce que la loi a fait dans un sens, ça peut le défaire. Hein. D'autres lois peuvent le défaire. Notamment, on essaie d'instituer un salaire minimum. On peut aussi instaurer un salaire maximum. Il y en a qui ne le veulent pas, mais à partir du moment où on le veut, on peut le faire. Ce sont des lois qui sont à prendre, qui peuvent être prises.
Bonjour madame. Philippe Poutou, candidat anticapitaliste.
Ah oui, Mélenchon, oui, d'accord. Mais il y en a qui ont déjà choisi, hein. C'est d'ailleurs assez incompréhensible, les gens qui ont déjà choisi leur candidat, comme ils le disent parfois, qui prennent quand même le tract. La signification de ça, c'est, dans les sondages, parce qu'il faut les regarder quand même, c'est le nombre de gens qui pensent s'abstenir, qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Il y en a au moins la moitié, au moins la moitié. Et vous allez voir encore une désaffection, très certainement, des bulletins de vote, très, très certainement. C'est galopant depuis des années et des années. Les gens se désintéressent, dit-on, mais je ne crois pas qu'ils se désintéressent vraiment, c'est qu'ils ne comprennent plus là où ils en sont, et ils sont fortement désabusés aussi. S'investir dans un militantisme, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, quel que soit le parti d'ailleurs. Et ce n'est pas entièrement faux, les institutions sont assez verrouillées, les élections sont aussi assez verrouillées, il y a des challenges qui sont un peu difficiles à relever. Alors les gens sont désabusés, ils sont désabusés, c'est vrai.
C'est incroyable!
Parce que là-bas, il a fait goûter l'autre. Au début du marché, ils
font goûter
les melons, les
croquis. Les champignons français extra, là, oui. Le produit maraîcher extra, là. Vous allez pas chier, au choix, au choix.
Bon, alors, on est toujours sur le marché d'Aligre et j'ai rejoint deux jeunes électeurs de NDA. C'est pas le NPA, cette fois, c'est le NDA. NDA, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Alors, qui êtes-vous, messieurs, très jeunes électeurs ?
Alors, je m'appelle Anthony, j'ai 21 ans. Je suis étudiant en droit français et droit espagnol.
Moi, je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans. Pareil, droit français et droit espagnol.
Et c'est la première fois donc que vous allez voter aux élections présidentielles ?
Oui, tout à fait, c'est la première fois.
C'est la première fois que je vote tout court à une élection.
Moi, ça m'intrigue quand même des jeunes comme vous qui, pour la première fois, votent aux élections présidentielles et qui votent pour le candidat souverainiste, protectionniste. Il veut revenir au front, alors ça, il le dit depuis des années. Et donc, tout ça, vous y croyez, vous
C'est le seul candidat qui propose un véritable avenir pour les jeunes et un avenir pour la France en général, qui est de sortir d'un carcan qui est celui de l'Europe actuelle supranationale.
Actuellement, l'Europe... C'est un braquage, c'est-à-dire on nous prend notre démocratie et on la donne sans l'accord des peuples à des fonctionnaires non élus. Donc c'est ça qu'on veut, c'est juste construire une Europe qui soit plus démocratique, qui s'appuie sur les peuples et sur la diversité des peuples. Le retour au franc, il s'impose d'une certaine manière si on ne veut pas continuer à être dans la crise en gros. Parce que la politique que mène la Banque Centrale Européenne, c'est une politique, c'est-à-dire à l'allemande, qui ruine l'Europe, qui a ruiné la Grèce et qui va, si on continue comme ça, ruiner la France. On veut permettre à la Banque Centrale Française, si la Banque Européenne ne veut pas le faire, de financer l'endettement français. C'est-à-dire ça nous permettrait de sortir de la logique des marchés financiers. Deux exemples pour montrer à quel point c'est des figurants, Hollande et Sarkozy. Sarkozy, il a proposé il y a quelques semaines de faire l'étiquetage de la viande halal. Bon, au-delà du débat qui est un peu ridicule, bon, il propose ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas la compétence. C'est pas la France qui décide de l'étiquetage des produits alimentaires. Ça, c'est pas la France, c'est le Parlement européen. Et le Parlement européen est hostile à ça, donc il ne pourra pas le faire. Il pourra pas le faire. Hollande propose d'augmenter la TVA sur les produits de luxe. Il ne pourra pas le faire. Ils veulent faire à 30%. Il ne pourra pas le faire parce que les directives européennes sont claires. Il n'y a que 3 taux d'imposition pour la TVA. C'est 7%, 19,5 et 5,5. Donc il ne pourra pas le faire à 30%. Donc ça, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Ah bon. Ils le savent en plus, c'est ça qui est dramatique. Donc c'est du foutage de gueule. L'Europe, actuellement, elle est en train de prendre la démocratie, c'est tout. C'est la République, c'est pas du souverainisme, hein, c'est la République.
Mais c'est quoi la République, moi ? Ça me dépasse un peu.
La République, c'est la démocratie du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est simple comme définition. Et le problème, c'est qu'actuellement, les Français ne peuvent plus choisir. Mais quand même, le droit communautaire, les directives européennes qui sont décidées par des fonctionnaires européens, est supérieur au droit français voté par les représentants du peuple français, élus par le peuple français. C'est quand même incroyable. C'est une négation de la démocratie, une négation de la République. C'est la République, ça, c'est pas du souverainisme. C'est la République, tout simplement.
Avec ça, mon cœur. C'est ton dernier mot ? Tiens, ma belle. À nous deux.
Allez, vache.
Avec ça. Ça va nous faire 12,87. Voilà, bel enfant.
Excellent.
Ballon, sinon il y a la gariguette.
J'attends le produit plus proche, un petit peu plus mûr.
De salade à l'eau.
Bonjour.
Bonjour.
Je vois que je suis suivie.
Oui, et je vois un badge. Pour moi, c'est Eva sur votre veste.
Bah oui, pour moi c'est Eva, absolument.
Alors vous avez choisi, c'est bon.
Ah oui, ça fait un petit moment que j'ai choisi déjà. Non seulement choisi, mais je milite pour elle. Donc c'est plus qu'un vote, c'est un engagement. Je m'appelle Christine Blache, j'adore bien manger.
Et alors là, vous faites vos courses sur le marché d'Aligre. Et je vous entendais dire tout à l'heure au maraîcher, je voudrais un produit un peu plus proche, un peu plus mûr. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je fais mes courses de saison. J'ai été élevée à la campagne. Mais par justement parce que je venais de la campagne, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils nous font chier, ces écologistes de parisiens et urbains à nous apprendre comment on doit faire. Et je pense qu'il y a eu un malentendu longtemps entre la campagne et l'écologie, qui est en train de se résoudre en fait, parce que l'écologie nous a fait beaucoup avancer, que les campagnes avancent aussi, et puis on se rend compte que les campagnes ont été aussi beaucoup polluées. Donc j'ai appris à vivre avec les saisons.
Bon, alors montrez-moi.
Je vais faire un petit assemblage.
Oui.
Avec un paquet de navets, une boîte d'oignons frais, s'il vous plaît.
La rouge et le blanc.
Les blancs. Voilà, et avec une boîte d'oignons frais, des petits navets comme ça, des carottes nouvelles, des pommes de terre nouvelles et quelques petits pois, on a un plat complètement de saison. Et puis, on l'oubliera après, jusqu'à l'année prochaine. Je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Alors 10,40 €. Alors, c'est un peu normal, parce que j'ai pris des asperges, qui sont à 5,90 €. À mon avis, elles vont encore un peu baisser. C'est à peu près le prix, quand même.
Bonjour.
Merci.
Alors, est-ce qu'on peut dire que, du coup, tout le monde, et avec n'importe quelle porte-monnaie, peut, aujourd'hui, prétendre être un peu écolo et pouvoir faire ce qu'il peut à son échelle?
Alors, je voudrais dire oui. Je pense quand même que les gens qui sont en situation de précarité sont souvent aussi dans les environnements où la distribution qui leur est offerte n'est pas forcément de bonne qualité et que leur porte-monnaie ne leur permet pas de faire beaucoup d'écart. Donc c'est pas simple, parce que quand on a une famille à nourrir et que les revenus ne suivent pas, on est obligé de faire avec les basiques, et que les basiques c'est d'aller chercher au plus bas prix, qu'au plus bas prix on vous vend les poulets élevés en batterie, on vous vend tout ça. Et après on a tout un programme d'éducation sur comment on peut se nourrir mieux, comment on n'est pas obligé de passer par la viande de façon systématique, comment est-ce qu'on peut équilibrer ses repas sans que ce soit forcément coûteux, précisément en utilisant les légumes de saison. Acheter des tomates en hiver, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une chose ronde avec une petite couche de plastique autour et de l'eau à l'intérieur. Enfin, c'est ça une tomate en hiver.
On aime ça.
À l'heure qu'il est, il manque des militants. Alors attendez, je prends la liste. Lutte ouvrière, Modem et Front National. Là, je suis dans le 15e arrondissement de Paris, donc dans le sud-ouest de Paris. Et c'est le jour du marché Saint-Charles, rue Saint-Charles. On va aller voir tout de suite s'il y en a qui sont présents aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que vous avez vu des militants aujourd'hui?
Ils étaient là-bas, ils sont en train de distribuer des tracts vers là-bas.
D'accord. Moi, je vais voir. Merci. Bonjour.
Bonjour.
Merci. La France solidaire de François Bayrou.
Daniel Lefebvre, je suis habitant du 15e et militant dans le 15e arrondissement aussi. J'ai rejoint François Bayrou à l'occasion de sa campagne électorale de 2007. L'idée de défendre un centre indépendant m'a paru très intéressante. C'est refuser les deux blocs qui ont toujours gouverné la France depuis 30 ans et pour faire valoir des idées nouvelles, il faut bien à un moment donné se positionner en tant qu'indépendant. Et refuser l'influence des lobbies surtout. Moi, c'est pour ça que j'avais rejoint aussi François Bayrou en 2007, parce qu'il dénonçait le pouvoir médiatique, il dénonçait le pouvoir des finances aussi. Et je pense que là, il faut absolument retrouver ces idées que Général de Gaulle lui-même avait défendues. La politique de la France ne se faisait pas la corbeille. Ça veut dire la bourse, la corbeille. Hein ? Non, c'est vrai que la bourse ne se fait plus à la corbeille, avec l'informatique et tout. Mais moi, j'ai connu la corbeille. Et c'est ça qu'il faut refuser. Et il faut refuser l'influence de tous ces pouvoirs. Et croyez-moi, Général de Gaulle, s'il a pu redresser la France après la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'à un moment donné, il a fait comprendre qu'il fallait développer des idées pour la reconstruire, cette France.
Et aujourd'hui, alors, pour la redresser, quelles mesures concrètes François Bayrou prendrait s'il était président ?
Alors justement, la mesure la plus concrète de son programme, c'est le produire en France. Parce que on a abandonné malheureusement toutes les productions et certaines des productions qui auraient pu continuer à être effectuées en France, on les a abandonnées à l'étranger. Son action phare, c'est le produire en France avec un commissariat national aux stratégies, un peu à l'idée du commissariat au plan. Il ne faut pas oublier qu'avec De Gaulle, Pompidou ensuite, le commissariat au plan a eu une action très concrète pour justement piloter les grands programmes. Mais il faudra qu'il ait un rôle d'orientation, d'action aussi surtout, avec des diagnostics sérieux par filière, tel qu'il vient de le dire, pour le bois, pour le textile, pour le tourisme aussi. Donc il y a possibilité de s'en sortir, mais il faut la volonté, voilà, la volonté politique.
Bon, alors les militants de François Bayrou, c'est fait. Refuser l'influence des lobbies des finances de la corbeille. Je ne savais pas qu'il y avait une révolution centriste qui était en marche.
Mesdames et messieurs, on va s'y mettre tous ensemble. Au lieu de continuer à se porter des accusations en disant c'est la faute de la droite ou c'est la faute de la gauche, au lieu de continuer à démolir ce que l'autre fait, au lieu de défaire quand on arrive ce qui a été fait par les précédents, on va s'y mettre tous ensemble. Droite, gauche, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, gauche, droite, 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 on va s'y mettre tous ensemble. Droite, gauche, gauche, droite.
Bon, alors on l'entend là, je ne suis pas vraiment sur un marché, mais plutôt boulevard Magenta. C'est dans le 11e arrondissement de Paris, près de la place de la République. Et là, j'attends en bas de chez lui Frédéric. C'est un militant du Front National. Et je l'ai appelé. J'ai un peu triché parce que je les ai pas croisés, moi, sur le marché, les militants du Front National.
Bon, par là.
Je vous ai pas trouvé sur les marchés.
En fait, on fait certains marchés. Donc, on fait le 18e. On peut pas aller sur tous les marchés, malheureusement. Car quand on n'y va pas assez nombreux, quand on n'y va pas à 8 personnes, on peut se faire agresser par des gens du Front de Gauche ou du NPA qui ne respectent pas la démocratie.
C'est-à-dire ?
Qui viennent, qui hurlent des calomnies comme F comme fasciste, M comme nazi, tout en banalisant ces choses-là qui furent comme des horreurs, et qui diabolisent pour pouvoir ridiculiser l'adversaire.
Et alors, comment on devient un jeune militant du Front National ? Quand est-ce que vous avez décidé de vous engager ?
Moi, personnellement, j'ai adhéré en 2007, mais auparavant, j'étais plus proche de la gauche événementiste. C'est-à-dire que je pensais que Jean-Pierre Chevènement portait un projet qui était en adéquation avec mes idées, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il a trahi pas mal de choses, qu'il ne s'est pas vraiment opposé à la Constitution de 2006. Toutes ces choses-là m'ont fait évoluer, m'ont permis de comprendre certaines choses. Moi, je suis républicain, je suis pour l'assimilation. Je vois qu'aujourd'hui, on fait venir des gens massivement dans notre pays sans les assimiler. Et tout en prenant le multiculturalisme qui amènera, quoi qu'il arrive, à une division dans la nation, même si ce n'est déjà le cas.
Mais ça veut dire quoi, assimiler quelqu'un ?
Assimiler, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai des arrière-grands-parents qui sont venus en France, qui venaient de Pologne et d'Italie. Ils se sont assimilés, ils ont pris un prénom français, ils vivent avec une culture française. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français d'origine étrangère qui sont dans ce cas-là, qui sont des patriotes. Attention, moi, je pense que français n'est pas une couleur de peau, mais une couleur de cœur, un esprit et une culture. Et que la France a certes une vocation universelle, mais pour ceux qui l'aiment et qui la respectent, ceux qui veulent vraiment vivre en France, se dire « voilà, je suis français ». Je ne suis pas franco-algérien, franco-ceci, franco-cela, je suis français, tout simplement. Mon père, au début, était hostile à la période de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, il est devenu plutôt... pour Marine, c'est-à-dire qu'il votera sûrement Marine, même s'il y a certains points parfois qu'il a besoin encore d'assimiler. Enfin,
quel genre ?
Sur la priorité nationale, parce qu'on l'a dit pendant 20 ans que c'était quelque chose qui était raciste, alors je lui ai expliqué qu'il a commencé à comprendre. Donc aujourd'hui, il a évolué. Ma mère, elle ne vote plus parce qu'elle a été dégoûtée par les politiques. Elle s'abstient déjà depuis avant 2002. Et donc, elle m'écoute, même si elle a encore les préjugés des médias qui disent que le Front National est fasciste, raciste, toutes ces conneries-là, alors que c'est complètement faux. Donc, ce sera notre future présidente, peut-être pas en 2012, mais en 2017. Parce qu'elle parle au peuple, elle veut rendre la liberté au peuple et les gens, même quand ils ne sont pas Front National, ils la comprennent, vous voyez. C'est un peu une espérance, c'est la lumière dans l'obscurité.
Les militants du Front National, hop, c'est fait. Pas de marché là, non, mais un centre commercial. On est à Pantin, au nord de Paris, devant le centre commercial Vert Pantin, juste à côté de l'arrêt de métro Hoche, H-O-C-H-E. Et là, c'est des militants Lutte Ouvrière qui tractent. Ils sont une dizaine avec deux drapeaux plantés. Lutte Ouvrière, lettres blanches sur fond rouge, une photo de Nathalie Arthaud juste en bas. Ils militent pour elle.
Les travailleurs n'ont pas à payer la crise des capitalistes. Il faut prendre sur les profits pour créer des emplois et augmenter les salaires. Nous sommes des militants de Pantin et plus généralement de la classe ouvrière. Parce que voyez-vous, nous nous disons aux travailleurs, les élections ne changeront rien à notre sort, quel que soit le résultat, qui que soit celui qui sera élu, nous ne ferons pas l'économie de la lutte. Le monde du travail ne peut compter que sur ses forces, sa détermination pour se défendre. Et là, vraiment, ils nous font tellement la guerre que c'est une question de survie. Moi, je suis une ancienne de Roussel-Uclave. C'est une usine qui fabriquait des médicaments qui s'appelle maintenant Sanofi et qui était la plus grosse entreprise du département. Ils ont fermé. Autrefois, dans le temps, quand moi je suis entrée, on était 4000. Tous les jeunes du département allaient travailler dans cette entreprise. Il y avait tous les corps de métier. Et ils ont fermé, non pas parce qu'ils ne faisaient pas des affaires, parce qu'ils gagnaient énormément d'argent. C'est une des entreprises les plus profitables du CAC 40, mais pour gagner encore plus d'argent. Ils ont mis dans la difficulté des milliers de familles, parce qu'il y a aussi tous les sous-traitants. Et tous ces emplois ont disparu. Et c'est ça qu'il faut empêcher. C'est toute l'année que nous militons pour ça. Alors bien sûr, nous profitons de cette campagne électorale pour le dire.
Alors comment vous êtes devenue militante, vous, du coup ?
Moi, j'ai toujours été militante parce que mon père était un anarchiste espagnol. Voilà, réfugié de la guerre d'Espagne, mis dans un camp de concentration à Argelès-sur-Mer par l'État français. J'ai été élevée dans ce milieu. Ma mère était une travailleuse. Elle a fait les grèves de 36. Elle m'a toujours dit, ma petite fille, si tu as des congés payés, c'est parce que j'ai occupé mon usine en 36 et qu'on a fait peur au patron. Ici, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de crèche, les retraités souffrent, il n'y a rien. Les services publics ferment les uns après les autres. Les postes, il n'y a plus que des machines. Et il y a des milliers de chômeurs. Et ça continue, et ça continue. Donc, ils nous pousseront à la révolte.
Vous dépeignez cette image très sombre de la société et vous perdez jamais espoir.
Non, non, non. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'optimisme. J'ai foi dans l'humanité. Enfin, c'est une société qui pourrait être formidable s'il n'y avait pas le capitalisme, qui impose sa loi, la loi du profit, qui ne cherche pas à satisfaire ou à rendre la vie vivable pour tout le monde, mais à faire du fric. Pourquoi faire ? Satisfaire quelques caprices ? Moi, je suis très optimiste. Je pense que l'humanité saura se débarrasser de ce système et prendre les choses en main et créer une autre société. Je m'appelle Harmonie et on fera une société harmonieuse.
Et de 10, on termine en beauté. J'espère qu'Alain Lindessie aura pu faire son marché, lui aussi. Ça lui aura donné quelques idées, ces extraits politiques, ces petites touches impressionnistes électorales, ce petit marché. Bon, mon temps de parole à moi, il est tout écoulé. Ciao, ciao.
Allez, on y va dans la fraise, la fraise, la fraise, la clémentine. Allez, 2 kilos, 2 kilos.
c'était la liste des courses sous l'égalité du temps de parole. Un reportage de Sarah Lefebvre. Merci à tous, Alain Le Boucher, François le marchand de confiture, Jonas Haddad, le militant UMP, jeune avocat, Arthur, Didier Anaïc, les maraîchers sur le marché d'Iéna. Merci à Jean-Claude, 64 ans, militant du Front de Gauche à Saint-Denis, Fabien Hamel pour le progrès solidarité de Cheminade, Yves, militant NPA sur le marché d'Aligre, Mathieu et Anthony qui défendaient la cause de Nicolas Dupont-Aignan, Christine Blache d'Europe Écologie Les Verts, Daniel Lefebvre, militant pour François Bayrou dans le 15e arrondissement, et Frédéric, militant du Front National depuis 2007, et Harmonie, militante lutte ouvrière à Pantin. Merci à toutes et à tous. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission avec votre chronomètre si vous voulez. Vous verrez qu'on a rigoureusement respecté le temps de parole des soutiens aux candidats. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org, là-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Nous serons bientôt, très bientôt, 10 000. Alors on compte sur vous pour le répondeur de là-bas si j'y suis pour lundi. 01 56 40 37 37, c'est votre répondeur. On y attend des messages sur tout ce qui va se passer au cours de ce dimanche. Racontez-nous, dites-nous vos joies, vos peines, vos surprises, vos colères et vos rigolades. D'ici là, à la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Yann Bouillot, Bertrand Chanton et Franck Adéré ont réalisé cette émission, assistée de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch. C'est lui qui aura le plus de boulot. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. Je le répète, au 01 56 40 37 37. Vous l'avez entendu. Il est 16h sur Inter. On se retrouve dans un autre monde lundi à 15h. Bon week-end à tous. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Pendant que les candidats à l'élection présidentielle continuent de battre la campagne pour le dernier jour de la campagne officielle, la commission des sondages met les choses au clair cet après-midi. Les radios et les télévisions se sont engagés par exemple à tenir secrètes jusqu'à 20h leurs estimations. Quant aux instituts de sondage, ils s'engagent à ne pas diffuser dimanche de sondages de sortie des urnes avant 20h et de ne pas les communiquer aux médias étrangers avant également. En tout cas, s'il est élu le 6 mai prochain, François Hollande essaiera d'adopter le comportement qui conviendra dès le début de son mandat. Le candidat socialiste l'a dit cet après-midi lors d'un déplacement dans la région Champagne-Ardenne. Il faisait ainsi référence au nouveau mea culpa de Nicolas Sarkozy ce matin, qui dit avoir commis une erreur en manquant de solennité en début de son mandat. Et dans les à côté de la campagne, aujourd'hui, jour de prière pour les musulmans, à cette occasion, plus d'une vingtaine d'imams ont appelé leurs fidèles à voter dimanche pour le premier tour, afin, disent-ils, de devenir les acteurs de leur propre changement. Dans cette campagne, il aura été beaucoup question des entreprises en difficulté. On l'a vu avec le Jabi, Photowatt, la fonderie du Poitou, ou encore Petroplus. Une nouvelle entreprise en difficulté s'invite aujourd'hui dans ce cortège. Le groupe français Néo Sécurité, leader du marché de la sécurité en France, s'apprête à déposer le bilan. 5000 personnes y travaillent. La direction demande aujourd'hui un coup de pouce politique. Pas content, le couple Balkany, Isabelle et Patrick Balkany, ont décidé aujourd'hui d'attaquer le Canard Enchaîné pour atteinte à la vie privée. L'hebdomadaire satirique avait écrit qu'ils avaient passé la nuit du 14 au 15 avril dernier au Crillon. Leur entourage explique aujourd'hui qu'ils y ont été invités pour y fêter leur 36e anniversaire de mariage. Le Canard Enchaîné avait aussi écrit ce jour-là que, justement ce jour-là, en l'occurrence, dimanche dernier, les membres du premier cercle des donateurs les plus généreux de l'UMP y avaient déjeuné. Jean-François Copé, le secrétaire général de l'UMP a démenti mercredi que l'UMP soit à l'initiative de ce repas. Le combustible nucléaire usé entreposé dans les piscines de désactivation de Fukushima pourrait être retraité sur le site de La Hague en France. Alors rien n'est encore fait, ce sera seulement si le gouvernement japonais le souhaite, déclare aujourd'hui Luc Oursel. Le président d'Areva l'a dit de Tokyo au cours d'une rencontre avec des journalistes francophones. Apple embauche en Irlande. Le gouvernement de Dublin annonce aujourd'hui que le groupe américain va créer 500 nouveaux emplois dans le sud du pays. Dublin se réjouit de la nouvelle alors que le pays justement connaît toujours la crise et que le taux de chômage y reste élevé, plus de 14% de la population active. Thomas Berdic et Novak Djokovic sont les deux premiers qualifiés pour les demi-finales du tournoi de tennis de Monte-Carlo, le premier sur terre battue de la saison. Le Tchèque s'est imposé en 3 sets devant Andy Murray. Le numéro 1 mondial lui a battu Robin Haase en 2 sets. On attend maintenant la confrontation franco-française entre Joe Wilfried Tsonga et Gilles Simon. Mais pour l'instant, sur France Inter, 16h03.
Radio Suisse Romande, la première.
Ici Radio-Canada.
France Inter.
Dimanche 22 avril à partir de 9h, émission spéciale des radios francophones publiques avec Marie-Christine Leduc.
4 reportages réalisés en Suisse, au Canada, en Belgique et en France.
Dans une maison de repos,
vous êtes tout le temps assisté.
Suivi d'un entretien avec le sociologue Serge Guérin pour illustrer les défis de la longévité.
Il ne faudrait pas qu'on arrive à 85 ans sans avoir réussi à avoir du temps pour soi.
Émission spéciale des radios francophones publiques à retrouver sur France Inter dimanche à partir de 9h. France Inter. La différence.
Il aime tellement Norah Jones qu'il n'est pas là avec moi à mes côtés, Didier Varro, mais que la musique donne, bah, ça marche tout de suite quand même, malgré tout.
Quand la musique donne...
Rock, musique électro, techno...
Chanson, rap...
La musique d'aujourd'hui, en fait, de la musique moderne.
La musique, elle est juste là, comment... C'est une vibration.
Didier Varro.
Il est né à Ségou, au Mali. Ils sont nés sur l'axe Montparnasse, Montrouge, Paris, région parisienne. Il est arrivé à Paris à l'âge de 1 an et se sent alors un enfant du Danube, près de la place des Fêtes. Ils ont grandi dans le 14e arrondissement, entre le lancer de balles dans les paniers d'un terrain de basket et le tir au but des rimes sous l'arc d'un Paul Bert qui laissa sa marque dans l'instruction publique. Il a commencé par intégrer le label Time Bomb pour devenir un monsieur, avant de créer son propre opéra. Ils ont commencé sous le nom de POS et font partie du collectif francilien L'Entourage. Il a dit « Je n'ai pas la nostalgie d'un âge d'or du rap français, la nostalgie c'est un rongeur ». Ils ont dit « Le rap c'était mieux demain, donc laisse-nous faire ». Il nous a fait réaliser qu'une seule apostrophe dans la langue peut changer l'arme de pacification massive en larme de paix qui coule sur une joue. Ils règlent leur compte au mythe du rêve américain en une phrase « Le ciel a plus d'étoiles que le drapeau américain ». Il est du signe du lion, aime créer ses propres dictons, a vécu la solitude, le manque d'argent et s'est donné les moyens de vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. Ils n'ont pas eu de réseau, ni de grands frères, ni quartier. Se filment dans la rue ou chez eux avec, précision importante, leurs vrais vêtements. Il est rappeur, black poet. Ils sont rappeurs, faussement légers. Il s'appelle Oxmo Puccino. Il s'appelle 1995 ou 1995. Deux noms pour 3 initiales. M.O.P. Non, il ne sera pas question de la maîtrise d'ouvrage public, ni de la marge opérationnelle qui est une notion de comptabilité, mais de 1000 Oxmo Puccino, ou plus précisément d'une rencontre au sommet entre la nouvelle sensation du hip-hop français 1995 et un vétéran du rap qui nous prévenait déjà hier. Rap français, tiens bon, il te reste des rimes à vivre. Bonjour Oxmo Puccino.
Bonjour.
Ça
bonjour.
Fait plaisir de te revoir.
Ouais, j'ai moins plaisir que d'entendre tout ça.
Bonjour les garçons de 1995, vous bonjour, n'êtes pas bonjour. Au complet cet après-midi, c'est Areno Jazz mm-hmm. qui est là, bonjour.
Tout à fait, bonjour.
Et Funky Flav.
Bonjour, bonjour.
Alors, le rituel de l'émission, c'est une question pour démarrer. Alors Oxmo Puccino, question que tu pourrais poser comme ça en début d'émission, à la veille du premier tour de l'élection présidentielle, à 1995.
Alors, à la veille de l'élection présidentielle, je voudrais vous poser la question de savoir si vous avez une idée d'où vous serez dans 3 ans.
Fouah.
Dur.
Ouais.
On nous demande souvent ça, mais pour ma part, pour être tout à fait
3
franc,
ans,
j'en ai aucune
3
idée.
Ans. Ouais.
3 ans, 2000, ça fait 2015 alors, un truc comme as. 2014, 2015, je sais pas, hein. franchement j'en sais
c'est
rien.
Dur. Hein. On espère qu'on fera toujours de la musique tous ouais. ensemble déjà, ça serait pas mal. Parce que beaucoup de groupes, malheureusement, n'ont pas de la longévité qu'on espère. Mais si on fait toujours de la musique ensemble et qu'on fait toujours des concerts, on sera content, je pense.
Ouais, avec la légèreté toujours comme bagage essentiel en ce qui vous concerne.
Bah, la fausse légèreté, comme dit ouais. dans l'introduction.
Ouais.
Parce que la légèreté, ouais.
1995, à vous de poser une question à ce grand monsieur vétéran, mais toujours aussi jeune.
Plus qu'une question, moi j'aimerais bien qu'il nous raconte une anecdote studio. On est là pour parler du livre Rap Attitude. On l'a feuilleté avant, il y a plein de belles photos d'époque. Il nous raconte éventuellement une anecdote un peu inédite. Ça fait toujours plaisir.
Une anecdote
En plus, Oxmo, c'est un conteur, donc on va le laisser peut-être réfléchir un tout petit peu. Mais...
Qu'est-ce que je pourrais raconter comme ça Putain, il y en a beaucoup.
Peut-être une du début de l'histoire de Oxmo Puccino.
Sur Pulp Fiction, quand Booba a posé son couplet, il voulait mettre... quand je lui ai dit ouais, qu'il y avait la police qui arrivait, il voulait rentrer par Nick, sa mère, les keufs. Et je lui ai dit non, Booba, on ne peut pas faire ça sur ma chanson.
Débat.
Donc on a parlé 10 minutes et finalement, il n'a pas mis Nick, sa mère, les keufs.
C'est quand même tu es.
Tu l'as mis oublie les keufs, Pouch.
Ah, c'est galerie.
Est-ce que tu es un homme de raison depuis toujours, Oxmo?
J'essaye. C'est ça a les plus belles conséquences.
Ouais. Quel regard vous avez sur ce monsieur qui est en face de vous, que vous connaissiez, vous l'aviez déjà rencontré?
Ouais, 2-3 fois à l'occasion, au détour d'un concert ou d'un petit show ou un truc comme ça. Ou même, moi à l'ancien, on est allé à un truc que t'avais fait à Saint-Germain, enfin le Saint-Germain à Paname, hein, un truc sur la basse, tout ça.
Ah ouais, ouais,
à l'ancien,
exact,
je l'avais
exact,
déjà
y a
dit.
Deux piges, ouais.
Et puis on t'avait vu à la Fnac à Châtelet aussi. Tu faisais une conférence à l'ancienne pour le truc avec DJ Crime, je crois.
Ah ouais, enfin, pour la réconciliation.
Hein. Ouais, ah. Un truc comme ça, donc voilà, mais sinon. Bah, du respect déjà, parce que...
Grave,
ouais.
L'admiration. Merci, déjà, voilà, comme on disait, les carrières qui durent sont de plus en plus rares. Là, c'est, je pense, une des carrières qui dure le plus, avec une évolution. Bah voilà, ça, c'est pas toujours la même chose. À chaque fois, il y a un nouveau délire, donc c'est cool. Tout le monde est obligé d'écouter quand il y a un projet d'Oxmo qui sort.